Alors, Madame l'ornithologue, je vous avais demandé la dernière fois, bon, il y a plusieurs parolines, plusieurs grives, et je vous demandais, bon, quelles sont les différences, quelles sont les particularités, parce qu'il y a des espèces, il y a des familles, et avec Sophie Tessier, ben, on regarde toujours la faune, la flore. Est-ce que vous avez réponse?
Vous m'avez donné un grand devoir,
Semble-t-il, semble-t-il.
Parce qu'il faut, pour expliquer tout ça, il faut remonter un petit peu dans le temps. Et puis même moi, je suis retournée dans mes vieux cours de biologie de l'époque. Alors, il faut remonter à la systématique. La systématique, c'est tout simplement la science de la classification des êtres vivants. Classer, on fait ça tous les jours, pas seulement avec le vivant, mais tout simplement même à la maison, dans nos tiroirs. On classe les ustensiles, on classe nos vêtements. Alors, pourquoi classe-t-on? Tout simplement pour s'y retrouver. Alors, même apparemment qu'il y a des études qui sont faites, qui ont été faites sur les nourrissons. Puis les nourrissons, déjà, à leur âge, classent.
Ah. Classent l'information.
Ils classent, par exemple, des choses autour d'eux. C'est toujours en clé dichotomique. Donc, sous un critère, on divise. Alors, par exemple, les choses qui se mettent dans la bouche, qui sont bonnes à se mettre dans la bouche, puis les choses qui sont pas bonnes à se mettre dans la bouche. Donc déjà, c'est une forme de classement qu'on fait très, très jeune. Puis apparemment que c'est un caractère inhérent à nous, les humains. Maintenant, cela étant dit, il y a bien avant notre ère, hein, ça date même, il y a des écrits qui datent avant Jésus, on classait déjà les animaux, les plantes. Et puis, c'était surtout pour par intérêt utilitaire. Alors, par exemple, les plantes, on pouvait classer les plantes médicinales des plantes non médicinales. Okay. Donc, le critère était, est-ce que ça peut guérir, oui ou non?
Ouais.
Okay. Toujours dans l'esprit de la clé dichotomique. Quand moi, j'étais à l'école, à l'université, ça fait longtemps, eh bien, j'ai appris qu'on avait classé le vivant en cinq règnes. Donc, il y avait les animaux, les végétaux, les champignons, les protistes, hein, ça c'est très, très, très petit, et les bactéries. Là, je n'irai pas nécessairement dans le détail des protistes et des bactéries, mais juste à savoir que c'est des unicellulaires, donc une seule cellule. Les bactéries, il n'y a pas de noyau quand on regarde à l'intérieur, puis les protistes, ils ont un noyau.
D'accord.
Mais si on se concentre un petit peu plus sur animaux, plantes, champignons, bien... Comment on est arrivé à ce classement-là? En fait, on aurait pu classer d'une toute autre façon. C'est totalement arbitraire quand on classe. Si, par exemple, vous prenez Luc et Nathalie, je vous demanderais, bon, comment classer un arbre, une grenouille verte, puis un lièvre brun? Bien là...
Vous regardez leurs caractéristiques?
Oui, c'est ça. Il faut regarder la morphologie, l'anatomie. Alors, comment vous les mettriez ensemble?
Vivant, moi, c'est tout ce que je vois de lié.
Tout ce qu'il y a de lié, pour vous, c'est vivant.
Ouais.
Mais on pourrait dire, hey, il y a un arbre, il y a des feuilles vertes, puis la grenouille verte,
ouais,
elle est verte.
Mais pas le lièvre.
Mais pas le lièvre. Non. Donc, on pourrait dire, hein, c'est arbitraire encore une fois, on pourrait dire que l'arbre et la grenouille, puisqu'il y a du vert dedans, ça pourrait bien aller ensemble.
Ouais. Mais le tronc est brun et le lièvre
est
brun.
Mais pas la grenouille.
Eh bien, voilà quelqu'un qui a pensé un peu plus loin.
Non, mais est-ce que la grenouille est verte ou brune?
Elle est verte.
Bon,
la grenouille
alors,
verte
ça
est verte.
Pas plus.
Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, ben là, il faut classer. On ne peut pas classer par la couleur, ça ne marche pas. Le lièvre, même, il change de couleur. À l'hiver, il devient blanc. Ça ne marche pas.
Le petit anan.
Alors, on a finalement, après plein d'essais, on a classé selon la façon de se nourrir.
Okay.
Donc, les plantes, eux autres, produisent leur propre nourriture. Tous les végétaux, c'est que ce soit fougère, arbre, marguerite, ils fabriquent leur nourriture à partir de la lumière. Ils fabriquent du sucre, hein? En façon simplifiée de parler de la photosynthèse. Les animaux, eux, ils vont ingérer quelque chose autour d'eux. Ils ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture, que ce soit les herbivores, carnivores, omnivores. Il faut qu'ils mangent quelque chose.
Ouais, ouais.
Puis les champignons, eux, qu'est-ce qu'ils font pour manger un champignon? Ça vit, donc ça grandit. Comment ça mange un champignon?
Ben, c'est avec la terre, les
bactéries, la moisissure.
Ah ouais, ben en fait, c'est que ça ça fait un petit produit autour de lui qui décompose la matière. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'il va absorber les nutriments. Alors, on peut dire que c'est ça. Les trois grands règnes là, qu'on connaît le plus, c'est ça. Et là, quand on s'en va, disons, dans ces grands groupes-là, les cinq règnes, aujourd'hui, il y en a plus. Puis même, je n'entrerai pas là-dedans, mais aujourd'hui, il y a même d'autres façons de penser avec la génétique et tout ça. Il y a d'autres façons de classer. Mais là, si on rentre dans le règne animal, par exemple, là, on dit, oh boy, mais là, il y en a des animaux.
C'est sûr.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, encore une fois, on a regardé les caractéristiques extérieures, mais aussi intérieures, l'anatomie. Les animaux, on a regardé les oiseaux. En fait, on a classé les animaux en oiseaux, mammifères, reptiles. Les oiseaux, quelle est la caractéristique qui fait en sorte qu'un oiseau est un oiseau? Est-ce que vous le savez? Bien, il vole.
Il y a des ailes.
Tu vois, ça ne serait pas vraiment une caractéristique parce que la chauve-souris, elle vole, mais,
oui, mais c'est un mammifère.
C'est un mammifère.
C'est ça, il faut être ovivore.
En fait, il faut avoir du poil et donner du lait à son petit pour être un mammifère.
Okay.
Et pour les oiseaux, avoir des plumes. Alors, vous voyez, c'est vraiment des critères comme ça qui ont fait qu'on a défini certains groupes. Et donc, on parle de classe. Quand on dit oiseau, mammifère, reptile, poisson, on parle de classe. Donc, on s'en va du plus grand vers le plus petit. Là, dans les oiseaux, on s'est dit, il y en a toutes sortes de formes, de grandeurs, de couleurs. Comment on va faire pour les mettre en groupe, les mettre dans des tiroirs, hein, comme si on rangeait bien nos vêtements? Eh bien, on a regardé, entre autres, la forme des becs, le comportement, l'endroit...
Le régime.
Oui, l'endroit où ils habitaient. Et là, j'arrive finalement à vous répondre, Luc, par rapport à la question d'il y a deux semaines. Vous m'aviez demandé comment ça se fait qu'il y a tant d'oiseaux qui s'appellent parulines, parulines quelque chose. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a des grives, il y en a plein? Bien, c'est qu'on a regroupé ensemble. Donc, les parulines, hein, on a dit, il y a plein d'oiseaux là, qui ont un petit bec un peu pointu. Ils vivent toujours dans les arbres. Puis, ils mangent juste des insectes. Hein, là, je simplifie au maximum parce qu'il y a toujours quelques petites exceptions. Mais là, on s'est dit, OK, eux autres, là, on les met tous ensemble puis on les appelle parulines. Alors, ça, c'est la famille. Après ça, on a regardé d'autres oiseaux. On a dit, des gros oiseaux noirs qui sont omnivores, qui chantent mal. On a dit les corvidés, les corbeaux, les corneilles. Alors, on a essayé vraiment de regrouper comme ça. Mais si on s'en va encore dans le plus petit, si on observe, par exemple, les parulines, je prends ce groupe-là parce qu'on en a beaucoup de parulines, hein, un peu plus d'une trentaine au Québec. Et quand on observe bien à l'intérieur d'une famille, on se rend compte qu'il y a encore des différences et qu'on pourrait encore rediviser en petits groupes.
Ah oui, vous nous parliez de l'habitat, vous nous parliez de régions là, où il y en a qui sont plus en milieu urbain, d'autres en forestier.
Exactement. Ouais. Donc, on a, encore une fois là, regardé différents critères. On s'est dit, encore là, comme je disais au début, on ne peut pas vraiment prendre la couleur parce que la couleur, elle peut changer selon si l'oiseau est jeune ou adulte, selon
mâle,
la
femelle.
Saison, mâle, femelle, printemps, automne, ça change. La couleur, ce n'était pas un bon critère. Souvent, on a regardé l'anatomie et puis là, on a fabriqué des plus petits groupes qui s'appellent des genres. Donc, les genres, dans les parulines, il y avait beaucoup d'oiseaux qu'on a regroupés ensemble sous le genre d'Androica. Et puis, Nathalie, ça va peut-être vous dire quelque chose, vous, qui êtes professeure de littérature et de français. Il faut travailler beaucoup en étymologie quand on étudie la biologie parce que pour comprendre les mots,
il
faut connaître la racine grecque, latine. Et maintenant, les espèces sont toujours nommées, hein, depuis Carl von Linné, c'est lui un peu ce naturaliste suédois qui a comme inventé ce système de genre et le plus petit groupe, c'est espèce. Alors, on s'est dit... Oui, dans les parulines, ça vit dans les arbres. Donc, on a regroupé ceux qui vivaient dans les arbres. On a dit, ça va être le groupe d'Androica. D'où vient le mot dendroïka? Dendro, ça veut dire arbre. La dendrochronologie, par exemple, c'est l'étude de l'évolution des forêts, des arbres. Oika, ça vient de oikos. Oikos, qui veut dire maison. Mm-hmm. Alors, les oiseaux qui ont pour maison les arbres.
Ah oui, on voit des petites cabanes avec des trous, là.
Oui, un peu. C'est vrai que ce sont tous des oiseaux qui vivent dans les arbres. Mais là, on a regardé, puis on a trouvé une paruline qui était vraiment spéciale.
Notre mot de clôture là-dessus.
Ben oui, elle avait des petites moustaches. Oh. Et c'était comme un peu des moustaches qui ressemblaient à d'autres oiseaux. Puis même dans le comportement, c'était différent. C'est la paruline flamboyante. On l'a nommé cétophaga. Céto, ça veut dire des petits poils au bord de la bouche. Cétophaga, qui mange avec des petits poils au bord de la bouche. Mais là, avec la venue de la génétique, mais là, on s'est dit, il n'y a plus rien qui, dans le fond, qui fonctionne, parce qu'on se rend compte que la parenté entre les espèces, c'est pas nécessairement juste ce qu'on voit à l'extérieur, mais c'est bel et bien par rapport à l'ADN, la génétique. Et là, dendroïka, ça n'existe plus.
Ah.
C'est plutôt que...
Donc, ce n'est plus une paruline?
En fait, c'est que ça a changé de nom. On s'est dit, les dendroïka, maintenant, on va les mettre dans le genre cétophaga parce qu'ils sont plus près de cette caractéristique de la paruline flamboyante, plus près génétiquement.
Bon.
Alors, tout ça... Tout ça pour ça, tout ça pour dire que tout change avec l'étude de la classification, la taxinomie. Mais maintenant, vous allez voir que plus ça va aller, plus les noms vont peut-être changer.
On reste à l'affût. Merci, Sophie Tessier.